Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous célébrons cette année le bicentenaire du Code civil qui, un temps, fut aussi appelé le Code Napoléon. Œuvre législative majeure, elle fut effectivement rédigée sous l'autorité du futur empereur. Mais on a tendance à oublier la réalité du travail des rédacteurs, des quatre juristes qui ont donc fait ce travail, Tronchet, Bigot de Préameneu, Malville et enfin Portalis. C'est ce dernier, Jean-Étienne Marie Portalis, qui retiendra notre attention aujourd'hui. Peu connu, cet homme a pourtant doublement œuvré dans la recherche d'une quiétude, d'une paix intérieure après les tourments de la Révolution française. Il dirigea d'abord l'administration chargée des cultes à la suite du Concordat de 1801 et dès 1802, il se distingua effectivement dans, je cite, la rédaction du projet des lois relatif à la réunion des lois civiles en un seul corps de loi. J'ai nommé le Code civil des Français. Alors, pour évoquer ce personnage, je reçois Jean-Luc Chartier. Jean-Luc Chartier, bonjour. Vous êtes avocat à la Cour, historien également. Vous avez notamment travaillé sur D'Aguesseau et vous venez de publier chez Fayard une biographie de Portalis. Alors, c'est un livre précisément qui vient d'être primé par l'Académie des sciences morales et politiques. Vous venez de recevoir un prix quinquennal qui est le prix Kurzweiter qui prime en fait un livre d'histoire du droit. Alors vous dites dans votre préface, monsieur Chartier, qu'il s'agit là que ce livre est un prolongement nécessaire à votre ouvrage publié sur Henri-François D'Aguesseau. Quel est le lien entre D'Aguesseau et Portalis ?
Le lien est très étroit dans la mesure où D'Aguesseau a été l'initiateur de trois grandes ordonnances sous Louis XV qui préfaçaient, si je puis dire, une idée de regrouper la législation française sous un même volume. Alors, le chancelier D'Aguesseau, qu'on présente comme le Caton du XVIIIe siècle, qui était un personnage considérable, d'une lignée illustre aussi, puisque son père, l'intendant D'Aguesseau, était le plus proche collaborateur de Colbert et qu'il avait initié son fils comme juriste. Et D'Aguesseau est une figure devant laquelle vous passez presque tous les jours, puisque vous savez que sa statue est devant l'Assemblée nationale, à côté de celle de Colbert, de Michel de l'Hôpital et de Sully. C'est vraiment un personnage clé de l'époque monarchique sur le plan juridique. Il avait eu conscience de la disparité des lois à travers la France, cette mosaïque de provinces, avec différents parlements qui avaient une influence considérable et qui tenaient presque en otage le roi, et le chancelier D'Aguesseau avait donc certainement l'idée d'unifier le droit français. Et il a commencé à le faire et à rédiger trois ordonnances considérables qui devaient être le début d'un code. Alors il y avait le code Louis XV avant, mais qui n'était pas réellement un code, mais qui était un recueil de jurisprudence. Et D'Aguesseau, là, dans ses ordonnances, est précis et il va disserter sur trois sujets principaux, qui est celui des successions, c'est-à-dire des testaments, celui de la substitution et puis celui de la filiation. Bon, alors D'Aguesseau commence, mais ne termine pas son ouvrage. Alors, plusieurs, c'est une question que j'aimerais bien lui demander, si je le rencontre un jour en haut, et j'aimerais bien lui demander pourquoi il n'a pas continué, et il y a plusieurs hypothèses, soit il n'a pas eu le temps du fait de la longueur de sa vie, soit il a considéré que le travail était impossible parce que les rigidités des parlements ne l'empêchaient d'aller plus loin, soit il considérait que ce n'était pas utile et que finalement les coutumes d'un côté et le droit écrit de l'autre suffisaient à remplir le volume juridique de la France. Alors, après D'Aguesseau, il n'y a donc rien. Et il va falloir attendre le premier consul pour unir les Français. Et nous savons que pour Napoléon, et d'abord pour Louis Bonaparte, il y avait deux questions essentielles qui étaient beaucoup plus importantes que de gagner les victoires. C'était d'abord de rassembler les Français dans leur religion, dans la diversité de leur religion, et puis d'unir les Français au niveau du droit, et alors qu'il avait constaté que la mosaïque française ne permettait pas une égalité entre tous les citoyens.
Alors l'historien Albert Sorel, qui a son nom au-dessus d'un des amphis de Sciences Po, mettait l'accent sur la continuité de la politique étrangère de l'époque monarchique à l'après-révolution. Est-ce qu'on peut avoir le même raisonnement sur le droit ? Est-ce qu'il y a une continuité entre justement ce d'Aguesseau et ce Portalis ?
On peut dire qu'il y a une continuité, elle est limitée peut-être, parce que la Révolution est quand même une grande fracture, et que dès la Convention, l'idée des républicains était différente de celle, bien entendu, du soutien de la monarchie de droit divin. Mais on peut dire que les sources du droit actuel, c'est à Rome qu'on les trouve. Alors, le code Napoléon, le code civil des Français, puisque c'est celui sur lequel a travaillé Portalis, c'est un résumé du code romain, du droit romain, du droit canonique, et puis des coutumes du nord de la France, et puis du droit écrit du sud de la France. Alors c'est une sorte de cocktail, si je peux dire, de tout cela, avec un esprit qui est celui de la Révolution, et l'impulsion est quand même révolutionnaire.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, Jean-Hugues Chartier, à notre personnage, notre héros, Portalis. D'où vient ce personnage ?
Alors, Portalis est un homme qui naît en Provence, c'est un Provençal. Il naît au Beausset, qui est une petite commune, qui est pas loin d'Aix-en-Provence, et pas loin de Toulon aussi. Il est de parents juristes, et c'est dans la maison notariale de son père qu'il va naître et progresser. Et puis ensuite, il est pris en charge par ses grands-parents, il va au collège de Toulon, et puis il suit des études tout à fait normal d'une bourgeoisie provinciale chez les bons pères et où il sera imbu et englobé, si je peux dire, dans une atmosphère qui est une atmosphère de droit canon et de droit romain, et il va progresser là-dedans. Mais très vite, l'enfant a des dons peut-être des dons naturels chez les provençaux de parole, mais il est attiré par l'art oratoire, et très jeune, on le voit prendre parti pour des grands sujets et attirer son auditoire autour de lui par des discours.
Alors nous reviendrons sur cette précocité. Son milieu familial est marqué par la philosophie des Lumières ?
Oui, son grand-père était en effet un intellectuel. Son père n'en sait trop rien, mais son grand-père était un intellectuel et son père, un but de droit canon, docteur en droit canon. La philosophie, je ne sais pas si vraiment ils étaient sensibles aux grands problèmes qu'abordera Portalis ultérieurement. Non, on ne peut pas le dire réellement.
Nous n'avons pas de documents sur cette question. Alors, vous venez de le dire, il était très précoce et il a publié deux ouvrages, un à 16 ans, c'est extraordinaire, en tous les cas, on peut parler d'un opuscule, une trentaine de pages, vous dites dans votre livre, qui s'appelle « Des préjugés ». Alors que... comment expliquer d'abord cette précocité et deuxièmement, quelle est la nature de ce petit livre ?
Alors, c'est le talent. On est avec des talents et lui en avait certainement un. Et on va retrouver, parce que cette histoire de préjugés, qui est vraiment un livre d'étudiant, enfin qui est très simple, eh bien déjà, on va voir dans son petit écrit des éléments qu'il va développer ensuite dans l'usage et l'abus de l'esprit philosophique au XVIIIe siècle. Et on devine les grandes qualités qui vont se révéler dans sa carrière, qui seraient celles de la sagesse, la modération et la tolérance. Et j'insiste sur le mot tolérance parce que, préjugé, tolérance, il n'y a pas loin. Et dès l'âge adolescent, Portalis s'oppose aux préjugés.
Il y a une phrase extraordinaire que vous citez dans votre livre et que je tire des préjugés et qui montre une maturité d'esprit. On ne peut pas s'empêcher de penser aux jeunes de 16 ans aujourd'hui qui pourraient écrire ça s'ils avaient la même maturité. Portalis dit « Je ne prétends pas violenter les hommes pour les soumettre. Laissons à l'erreur le soin de s'étendre par ses armes. La vérité ne connaît ni l'oppression ni la violence. Elle ne veut régner sur les esprits qu'après avoir fait la conquête des cœurs. »
Oui, c'est beau, n'est-ce pas ?
C'est un hymne à la tolérance.
Oui, moi je crois. Moi je crois, et ça sera peut-être son obsession, jusqu'au bout. Alors, on dira, mais n'allons pas trop vite dans notre entretien, mais qu'ensuite, dans ses rapports avec le Premier Consul et puis avec l'Empereur, les choses seront peut-être un peu différentes, parce que là, il n'y avait pas tellement de place à la discussion. Quand l'Empereur voulait, il fallait suivre. Hein. Mais vous savez que sa devise, c'était « je sers qui m'aime ». Ça voulait bien dire ce qu'il voulait dire.
Oui. Nous y reviendrons. Alors, il y a eu un autre texte qu'il écrit un an plus tard, et là, c'est ni plus ni moins qu'une critique de l'Émile de Rousseau. Que dit cette critique ?
Alors, les thèses rousseauistes étaient tout à fait rejetées par Portalis, parce que, la théorie de l'homme bon par nature, ça ne lui convenait pas trop. Il faut pas oublier que dès sa jeunesse, et comme nous évoquions tout à l'heure, Portalis est profondément chrétien, pour lui, la seule idée qu'il a, c'est la foi et la civilisation par la morale et la morale chrétienne. Donc ça s'oppose tout à fait à l'image rousseauiste de l'homme bon par nature et qui est corrompu ensuite par la société. Et ça, il va le combattre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'Émile, mais c'est que moi, je l'avais fait dans mes études classiques. C'est pas un ouvrage passionnant de Rousseau. Il y en a d'autres qui sont merveilleux, mais celui-là est un peu lourd. Et les principes qu'il développe sont des principes qui sont plutôt idéalistes. Or, Portalis, c'est un pragmatique, c'est un juriste. On verra. Il avait déjà son esprit juriste à ce moment-là. Et il s'oppose à ces conceptions naturistes, si je peux employer ce terme, de Rousseau dans ses conseils à l'éducation des enfants.
La publication de cet ouvrage va vraiment créer une polémique dans sa ville natale.
Alors c'est une polémique d'étudiants, il ne faut pas en donner une trop grande portée. Il publie, il est attaqué, il dit qu'il a plagié, il répond, il ignore d'ailleurs les réponses qui sont faites en sa faveur. C'est une querelle d'étudiants, mais qui est sympathique et révélatrice aussi.
Parce que c'est un homme de caractère ?
C'est un homme de caractère.
Il ose.
Son caractère évoluera, mais son caractère d'étudiant, c'est le contestataire que l'on connaît dans nos siècles plus récents, mais c'est l'étudiant contestataire qui existait depuis Sorbonne. Hein.
Alors, il devient très vite avocat. Il n'a pas 20 ans quand il devient avocat. C'était une chose classique à l'époque ?
Il est dans le milieu du droit. Hein. Son père est notaire. Il est baigné dans l'esprit du droit. Son meilleur ami est le fils d'un professeur de droit. Et il va épouser aussi la fille d'un professeur de droit dans ce petit milieu aixois qui peut être un peu étroit. Il est bon de briller par certaines choses, et le droit, quand on n'est pas de noblesse d'épée, c'est de l'être de robe, et c'est vers ce quoi il va se diriger.
Alors justement, cette carrière d'avocat, Jean-Luc Chartier, c'est ce que nous allons évoquer après une première pause, si vous le voulez bien. À tout de suite.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Luc Chartier, qui est l'auteur d'une biographie de Portalis, Portalis le père du Code civil. Alors nous évoquons le parcours de ce personnage fascinant. Et nous en sommes à l'époque où il devient avocat, il est très jeune, et c'est un homme qui va défendre plusieurs causes. Il va devoir se mesurer, non pas à des petites personnalités, mais à des grands personnages tels que Beaumarchais et Mirabeau. Vous écrivez, c'était l'époque où la philosophie se glissait sous la toge pour franchir le seuil du Parlement de Paris. Comment se situe Portalis par rapport à ces nouveautés? Est-ce qu'il va dans le sens de la nouveauté?
Je ne sais pas s'il va dans le sens de la nouveauté, mais en tout état de cause, il garde une ligne de conduite très claire et une très haute idée de sa profession. Et je suis très sensible à la question que vous me posez parce que on oublie totalement en France que Portalis était avocat. Alors on fait une assimilation de Portalis, rédacteur du Code civil. Est-il l'auteur du Code civil? Est-il simplement le rédacteur? Est-il un élément de la chaîne de l'élaboration du Code Napoléon? Bon, toutes ces questions-là viennent. Mais on oublie de dire que le fondement, c'est que Portalis est un avocat qui a été avocat pendant 25 ans et un avocat brillant. Il aurait pu s'arrêter là, il aurait pu continuer à être un avocat brillant d'Aix-en-Provence et de défendre des causes illustres auxquelles la cour et la ville se précipitaient parce que le talent des intervenants était tel qu'il passionnait, comme aujourd'hui d'ailleurs, le public. Il est un avocat avant tout et il va défendre toute sa vie, jusqu'à sa mort, la profession d'avocat. Et c'est comme juriste, c'est comme avocat qui va être choisi par Cambacérès pour être présenté au premier consul et faire partie de l'équipe qui va rédiger le Code civil des Français. Alors, cette période-là est très intéressante parce que Portalis se révèle ou révèle son caractère. Il y a ce procès que vous évoquez contre Beaumarchais, et l'on dit qu'en effet, à ce moment-là, bon, le duc de Luxembourg, la duchesse de Luxembourg, viennent en grande pompe assister au procès pour admirer les intervenants, que les gens sont assis sur le rebord de la fenêtre, tellement la salle est comble et qu'on ne pouvait plus y respirer. Bon, ce sont les procès à sensation, et Portalis garde un calme considérable, une modestie, une humilité même. Il est un avocat conscient de son importance, conscient de la cause qu'il défend, et il le fait de tout cœur et d'une manière très noble.
Nous sommes en 1771.
Hein. On est en 71. Il va s'arrêter il va arrêter sa carrière d'avocat en 90. Hein. Donc ça fait, il a exactement 25 ans de carrière d'avocat. Alors il s'oppose à Beaumarchais. Il s'oppose à Beaumarchais dans un procès qui oppose sa belle-famille à lui-même, qui est en réalité sa femme à lui. Et vous savez que Beaumarchais était ce qu'on dirait aujourd'hui un voyou, et que son propre père souhaitait qu'une seule chose, c'est qu'il soit envoyé à la Bastille pour qu'il ait la paix. Et le procès est intéressant et révélateur du caractère de Portalis qui, contre le talent considérable de Beaumarchais, va démonter d'une manière tout à fait scientifique et tout à fait juridique le dossier pour l'emporter finalement.
Alors passons sur Mirabeau, si vous le voulez bien, et venons-en directement à la Révolution, parce que le temps avance. Comment réagit-il face à cette Révolution ?
Alors, il a plusieurs attitudes. Je crois que Portalis considérait que la monarchie était usée et il adopte les idées révolutionnaires. Il va être député, il se présente à la députation, il est député à plusieurs reprises et il est attiré par les idées révolutionnaires. Et puis très vite, les excès de la Révolution lui parviennent, il va en subir lui-même les affres et il conçoit certainement l'idée d'une monarchie constitutionnelle. À tel point qu'il est le chef du parti constitutionnel, clichéen, puisqu'il siégeait rue de Clichy, et il va donc être taxé à ce moment-là, et ce qui va produire sa perte au moment de Fructidor, de royalisme. En réalité, je ne pense pas, en 89 ou avant 89, qu'il soit un royaliste. Il considère que la France ne pouvait plus avancer et qu'il fallait une rupture. Alors, par contre, il est contre tout excès. Et c'est un homme de modération et on revient à ces trois qualités que j'évoquais tout à l'heure, sagesse, modération et tolérance. Et là, c'est la modération. Et la Révolution, pour lui, c'est tout le contraire de la modération. Et il va s'écarter des idées révolutionnaires du fait de la terreur.
Il n'a pas peur de cette évolution ?
Je ne pense pas qu'il ait eu peur. Ce n'est pas une question de peur. Il a eu peur de la Révolution elle-même, puisque, bon, il se sauve. Il n'est plus en sécurité à Aix-en-Provence, il n'est plus en sécurité chez lui. Il va à Lyon comme avocat, il se cache, et là, il a encore un choc épouvantable, c'est que son propre secrétaire est assassiné. Il ne se sent plus en sécurité, il monte à Paris, et là, il est arrêté, et puis il est enfermé à cette fameuse maison Bellhomme, qui a fait couler beaucoup d'encre, où il échappe vraiment d'un cheveu à la guillotine, grâce à une histoire un peu rocambolesque.
C'est la chute de Robespierre qu'il sauve ?
C'est la chute de Robespierre. Le dossier était complaisamment, son dossier était complaisamment mis sous la pile tous les jours, alors qu'il devait venir devant Saint-Just. Et puis, le coup d'État, enfin, l'assassinat de Robespierre, et puis il est libéré.
Mais c'est un homme qui, à l'époque, a une renommée, c'est évident. Disons que tous les procès Mirabeau, Beaumarchais, lui ont permis, en fait, d'être connu, j'allais dire, de la France entière, et nous le verrons après, de l'Europe.
Oui, alors, il est connu dans sa province comme avocat, et puis il fait de la politique, comme beaucoup d'avocats à l'époque, et d'ailleurs les 500 étaient constitués de presque de la moitié d'avocats. Et puis, donc il fait sa carrière politique, et ce sont déjà les deux facettes de son personnage.
Alors, ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de révolutionnaires qui ont été sauvés par la chute de Robespierre. Mais alors lui, effectivement, il est sauvé par la chute de Robespierre, mais il part en exil après cette chute. Est-ce que vous pouvez rappeler ce contexte ?
Ah oui, alors c'est curieux, en effet, puisqu'il échappe à la mort, et là, il ne va pas échapper à l'exil. Il échappe quand même à la déportation, puisque le coup d'État de Fructidor l'envoie directement donc à la déportation, et il se sauve et il se réfugie en Suisse et puis en Allemagne. Mais exil bénéfique, puisque toute la profondeur du personnage se révèle pendant ces deux années passées dans les brumes d'Eckmendorf, qui est l'endroit où il trouve refuge chez un protecteur mécène, le comte de Ravenclaw.
Oui, ça ressort beaucoup de votre livre, Jean-Hugues Chartier. Il rencontre énormément de monde, et comme beaucoup à l'étranger à cette époque-là, il arrive à prendre du recul sur les événements et il écrit sur la Révolution. Qu'écrit-il sur la Révolution ?
La Révolution, pour lui, est condamnable dans la mesure où en effet, elle est l'opposé de ce que nous disions tout à l'heure, de la tolérance et de la modération. Je crois que se révèle, à ce moment-là, au-delà de l'avocat, le philosophe. Si tant est que l'un peut être séparé de l'autre, aujourd'hui, on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais l'expérience qu'il a, le recul qu'il prend de la politique, lui permet d'aborder les problèmes de fond qui sont liés au juridique. Il va parler de la famille, c'est son obsession, de la société. Il va traiter les grands problèmes philosophiques, mais il rencontre des grands philosophes, Jacobi et d'autres philosophes de l'époque. Il discute, il remue des idées, mais il a tellement souffert de l'excès que c'est vers la tolérance qu'il va faire tendre sa philosophie profonde, dont il n'aura pas le fruit, puisque cet ouvrage, qui est vraiment l'ouvrage clé de Portalis, ne sera publié que bien après sa mort par son fils.
Rappelons son titre.
En 1820, de l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique au XVIIIe siècle.
Mmh. Oui, donc les contemporains de Portalis, en tous les cas, de son vivant, ne pourront pas accéder à cette œuvre.
Non.
Voilà. On ne peut quand même pas le qualifier de réactionnaire.
Non, ça certainement pas. Au contraire, c'est un homme de progrès. C'est un homme qui considère que la société est en évolution, qu'elle doit évoluer, et il est tout à fait imprégné de la société et on dira presque un visionnaire, puisque dans l'ensemble, vous savez, des 2280 articles du Code civil, il y en a encore la moitié qui sont d'usage aujourd'hui. Mmh. Donc on peut considérer que c'est un homme non seulement de son temps, mais c'est un homme en marche vers l'avenir.
Mmh. Alors arrive politiquement le 18 Brumaire. Et là, il change, non pas du tout au tout, mais en tous les cas, il se sent attiré par cet homme qui est un peu synonyme d'ordre.
Alors, vous avez raison. Certainement, c'est une des composantes de sa réaction, et c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Il est fasciné par le Premier Consul.
Il était fasciné par les armes avant ?
Pas du tout. Je crois qu'il a une aversion pour les armes. Ouais. Il a une aversion pour les armes et les seuls combats auxquels il s'attache, ce sont les combats de parole et les combats d'idées.
Et pourtant, il apprécie Bonaparte.
Il apprécie Bonaparte. Mais il faut dire que, après Marengo, le Bonaparte est certainement quelqu'un de totalement fascinant et de génial. Et il écrit à son fils, c'est extraordinaire, comme avec cet homme, tout devient possible. Donc il dit, voilà l'homme qu'il me faut, auquel il faut que je m'attache pour réaliser ce que je veux faire. Et il est préparé par Cambacérès, qui est le second consul, qui est de même fibre que lui. Cambacérès est un chrétien convaincu, il est franc-maçon, il est juriste. C'est vrai que Cambacérès était magistrat et Portalis était avocat, mais ils ont la même culture. Et Cambacérès le présente, comme il a l'habitude de faire, puisque tout passait par Cambacérès, et toutes les nominations passaient par Cambacérès, et Bonaparte, qui connaissait personne, signait automatiquement. Et Portalis est donc présenté, et Portalis est fasciné par le personnage.
Alors, justement, vous décrivez à deux reprises dans votre livre les liens qui unissent les deux hommes. Je me permets de citer un de vos passages, une lettre, en tous les cas un rapport qu'il écrit précisément à Bonaparte. « Je ne crains ni la peine, ni les difficultés, ni les obstacles. Mon attachement pour vous me donne une force au-dessus de mes forces. Vous saurez toujours la vérité et je ne crois pouvoir faire un meilleur usage de toute mon existence que de la consacrer au bien en vous la consacrant. » Alors, Jean-Luc Chartier, c'est un loyalisme, et enfin, rarement on a vu un tel loyalisme.
Oui, il est loyal, il va l'être jusqu'au bout, mais peut-être au-delà même, parce qu'on va lui reprocher, parce qu'à la fin de sa vie, on le traitera un peu de courtisan. Il va écrire pour supporter la Saint-Napoléon, et puis pour donner le jour de congé qu'il faut pour célébrer le Conseil d'État. Il va être en effet entraîné un peu dans cette fascination jusqu'au boutiste. Mais malgré tout, le Premier Consul est suffisamment convaincant et l'intérêt qu'il porte à la création du Code est tel que Portalis est manifestement fasciné, comme les autres.
Et alors, c'est réciproque parce que vous écrivez que Portalis peut intégrer en quelque sorte l'intimité de Napoléon. Il intègre le cercle intime.
C'est exact. Alors, Bonaparte, à cette époque, en tout cas, ne mettait pas de barrière très forte, très élevée entre lui et ses collaborateurs. Et il a senti, parce que j'imagine que le Premier Consul était très intuitif, il voit chez Portalis l'homme solide, l'homme de réflexion, de tolérance et de modération qui va balancer son côté emporté de Général Corse.
Alors je reste toujours sur les deux personnages. Vous racontez, page 163, une anecdote. Je ne la raconte pas, mais de cette anecdote ressort réellement l'impression que ce sont deux hommes de grandes compétences qui se comprennent et qui comprennent la situation, les faits politiques, et au fond des hommes de cette compétence qui ont le recul sur les événements, il y en a peu à cette époque.
C'est vrai, on le recule. Alors, je ne sais pas si Bonaparte avait vraiment le recul pour juger des choses, mais il avait certainement le génie qu'on lui sait pour appréhender les situations. Or, à cette époque-là, le génie de Bonaparte se révèle sous deux formes. Il faut unir les Français sous une même loi et pour qu'ils soient égaux, et il faut leur donner la possibilité d'exercer la religion de leur choix et d'une manière ouverte, non pas cachée. Donc ça va être le concordat, le grand travail du concordat qui va être formidable, puisqu'il rétablit la paix religieuse intérieure après les persécutions épouvantables de la terreur. Et puis, il a réussi à unir les Français sous cette même loi, qui est le Code, qui est la plus grande gloire. Comme vous savez, on cite toujours la même phrase de Napoléon dans son mémorial de Sainte-Hélène. Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles, Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires, ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil, ce sont les procès-verbaux du Conseil d'État. Bon, c'est la phrase bateau, mais qui est certainement sincère de la part de l'empereur.
Je reçois Jean-Luc Chartier, auteur de la biographie parue chez Fayard, consacrée à Portalis, et nous allons enfin évoquer le code civil dans un instant. À tout de suite.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez. Mondialisation, régulation, privatisation, génétique, euthanasie, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques participent aux grands débats contemporains. Ouvrez leurs rapports, découvrez leurs travaux, écoutez leurs analyses. Éclairage, l'émission destinée à vous faire comprendre le monde, notre monde, ses enjeux aujourd'hui et demain. Éclairage, c'est tous les jours sur Radio Canal Académie.
Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Luc Chartier, historien, avocat à la Cour et auteur d'un livre, une biographie consacrée à Portalis, le sujet de notre émission, Portalis, le père du Code civil. Alors, nous arrivons précisément au Code civil à proprement parler. En fait, Portalis va hériter d'une situation et d'un mouvement consistant à homogénéiser le droit. Il prend en quelque sorte le train en marche. Il y a un personnage qui était devant, que vous évoquiez tout à l'heure, c'était Cambacérès. Et Portalis, en fait, va être chargé par Napoléon de mettre en œuvre ce code.
Alors, les choses ne sont pas faites tout d'un coup en sortant d'un sac. C'était une évolution qui a été douloureuse, ce code, parce qu'il y a eu 4 versions successives. Il y en a une en 93, en 94, et puis en 1800, en 96, et puis finalement en 1800, il y a eu 4 versions. Et ce qui est très curieux de savoir, c'est... dont on n'est pas réellement conscient, c'est de l'acharnement que mettait Bonaparte à la réalisation de ce code. Et je crois même qu'il aurait fait un autre coup d'État s'il n'était pas passé. Et on était à deux doigts que ce code ne voit pas le jour, puisque le Sénat le rejetait et que le système faisait qu'il devait voter d'une manière bloquée les lois, et à chaque fois que les lois lui parvenaient, elles étaient rejetées et renvoyées au Conseil d'État. Alors, exaspéré par cette opposition, alors qu'il avait vraiment, Bonaparte avait donné tout son cœur, hein, il avait participé à près de la moitié des séances du Conseil d'État. Je crois que sur les 107 séances du Conseil d'État, Bonaparte les préside, en préside 52, et les autres sont présidées par Cambacérès. Il est là jusqu'à 2h du matin, il réveille avec une énergie extraordinaire, il réveille les conseillers d'État qui s'assoupissaient, il secoue et puis il veut vraiment que ça avance, et Joséphine s'en plaint, et parce que il rentre trop tard, et certainement elle est déjà endormie quand il la rejoint, et il veut ce code, et s'il ne fait pas ce coup d'État que lui déconseille Cambacérès, c'est parce que Cambacérès a trouvé un moyen remarquable de contourner la situation, et il change le système d'élection du Sénat pour faire passer l'opposition, et il réussit à avoir un vote favorable en ventose en 12, et ce qui met un point final à la discussion.
Nous sommes en 1801-1802 à cette époque. Portalis, dans cette œuvre, vous soulignez dans votre livre on peut penser qu'il y a une contradiction entre ce que pensait Portalis avant la Révolution française et cette œuvre d'unification du Code civil.
Contradiction, je ne sais pas, parce que il est tout emprunt du personnage que nous citions tout à l'heure, de Daguesseau, qui est son dieu juridique, si je puis dire. Je ne sais pas s'il y a une rupture dans son esprit. Il y a une évolution, c'est certain. Et puis, il n'a pas tellement le choix avec Bonaparte. Par exemple, la question du divorce. Dans la période post-révolutionnaire, Portalis est absolument contre le divorce, par consentement mutuel ou pour incompatibilité d'humeur. Bonaparte, peut-être d'une manière prémonitoire, lui est pour. Et il va convaincre Portalis de le suivre. Et finalement, Portalis, en bon avocat qu'il est, va défendre les idées de Bonaparte. Parce qu'il est il était convaincu que l'évolution de la société, c'était comme cela. Pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs, mais il va changer presque de tout au tout et admettre que le divorce est un mal nécessaire.
Alors, il n'est pas le seul, il y a 3 autres personnages, et Jean Tullard d'ailleurs le souligne dans la préface de votre livre. Il y en a 2 qui viennent du nord de la France et deux du sud de la France. Pourquoi ?
Ah, c'était tout à fait déterminé. C'est que il y avait la France de droit écrit et la France de droit coutumier. Et Cambacérès, en bon juriste qu'il était, voulait balancer les deux oppositions et les deux droits et faire participer des éminents juristes qui sont tous membres du tribunal de cassation, mais de formations totalement différentes, donc de droit coutumier et de droit écrit, pour réaliser le code des Français.
Ça va encore une fois à l'encontre de l'idée d'une tabula rasa. On veut tenir compte des particularismes.
Oui, absolument. Je crois qu'on veut garder ce qui est bon et éliminer ce qui est mauvais.
Il y a une volonté véritablement d'équilibre.
Il y a une volonté d'équilibre. Je le disais en début d'entretien, la base qui est le droit romain, le droit canon, bien sûr, et puis le droit coutumier et le droit écrit. Et c'est un équilibre de tout cela qui fait le génie. Et n'oublions pas que dans l'élaboration du Code civil, on demandait, enfin, le comité et les rédacteurs demandaient l'avis des cours d'appel de toute la France sur des questions qu'ils devaient ensuite résoudre et rédiger sous forme de loi.
Alors, il y a un autre aspect que vous soulignez dans votre livre sur le Code civil, c'est qu'il devait être accessible à tous.
Alors, je crois que c'est un principe révolutionnaire. Et tout à fait au début, dès 90-91, on voulait un code simple, à tel point que Saint-Just voulait même qu'il ne soit pas plus long que la Constitution. Il voulait que quelques articles, ça lui suffisait. Et il donne un mois à Cambacérès pour le rédiger. Puis ensuite, on veut lui donner un peu plus, parce qu'il dit que ce n'est pas possible en un mois de réaliser un travail aussi considérable. On va lui donner 3 mois. Mais on voulait quelque chose de simple et d'accessible à tous et compréhensible par tous les citoyens. Ça, c'est certain.
Alors, il y a une chose que vous soulignez, et je reviens là à la personnalité, aux idées de Portalis. Vous établissez un lien entre les théories développées par Portalis dans son ouvrage sur la Révolution et l'esprit philosophique de la Révolution et le Code civil, et en tous les cas le discours préliminaire du Code civil, qui est un discours présentant l'objectif du Code civil. Quels sont ces liens entre les deux œuvres?
Vous voulez dire entre le préambule et puis le Code civil lui-même ?
Non, entre le discours préliminaire.
Le discours préliminaire.
Et l'ouvrage sur la philosophie des Lumières qu'il a écrit en exil.
Alors, il y a certainement un lien considérable et on ne peut comprendre le Code civil que dans la mesure où on appréhende le préambule. Et le préambule est en fait le résultat des réflexion de Portalis sur l'abus justement de la philosophie des Lumières et du XVIIIe siècle. Ce préambule est certainement le reflet le plus profond de la pensée de Portalis. Et il est certain, bien qu'il soit signé de tous, il est de la rédaction personnelle de Portalis. Et il va exprimer dans ce préambule toutes ces idées sur l'application du droit et l'importance de la loi. De la loi et de l'application de la loi, parce qu'il attache une très grande importance à la jurisprudence. Portalis souhaite que la loi soit comprise non pas comme une chose rigide, mais comme un élément d'évolution. La loi doit évoluer, doit être expliquée, doit être à la portée de tous et doit être mesurée selon les circonstances. Et il va le dire d'une manière très élégante et c'est vraiment tout l'esprit et le génie de l'homme dans ce préambule.
Peut-on parler de philosophie sous-tendant le Code civil ?
Oui, moi je pense que le philosophe est très important et sous-tend le juriste.
Alors peut-on lui donner le titre de philosophe du droit ?
Oui, Moi, je ne craindrais pas de le faire. Et je pense qu'il y aurait peu de personnes qui porteraient une opposition. Je crois que c'est vraiment un philosophe du droit et que c'est en effet dans le préambule que cela est le plus perceptible.
Mmh. Alors, venons-en concrètement au code. Quels sont les domaines de prédilection dans lesquels Portalis, en fait, va pouvoir travailler?
Alors, c'est la famille. Pour lui, c'est la famille, c'est certainement, et alors c'est aussi le sujet qui nous est le plus sensible, puisque c'est la famille, c'est nous sommes tous concernés. Et pour lui, la famille est l'élément clé de la vie en société. La famille, c'est la petite société. Si on protège la famille, on protège la société. Si on détruit la famille, on détruit la société. C'est pour ça que dans ses premiers écrits, je vous le disais tout à l'heure, qu'il est contre le divorce. Parce que la rupture de la famille conduit nécessairement à la rupture de la société. Alors il va développer tout cela d'une manière très précise, mais son idée déterminante, c'est d'appliquer la relation famille-société. Donc tout est fait dans l'esprit de conserver l'unité de la famille et d'entendre aujourd'hui certains exégètes qui prétendraient que les rédacteurs du Code civil ou le Code civil d'origine ne protégeaient pas la famille, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, pour arriver à des familles monoparentales ou autres, à mon avis, commettent des contresens graves et flagrants.
Alors, il s'intéresse à bien d'autres domaines, la propriété, la vente, les contrats aléatoires.
Oui, parce que ça, c'est la société, en effet, en évolution. C'est la pré-société industrielle. Mais ça n'empêche qu'aussi, il s'intéresse à la peine de mort. Et celle-ci, le philosophe aussi, lui, est pour la peine de mort. Et il va le démontrer pourquoi. Voilà, ils ont plus ou moins tangible. Mais à l'époque, il considère que, par exemple, que le criminel se met hors la loi et qu'on doit lui appliquer les lois de la guerre. On tue dans la guerre pour la protection du droit, on doit tuer dans le civil pour la protection de la loi et de la société. Donc voilà. Mais pour reprendre ce que vous dites à l'instant, il est donc très sensible à l'évolution économique de la société et à une idée du contrat. Il va le développer avec ses collègues rédacteurs d'une manière très précise en donnant ses solutions sur le respect du contrat. Pour lui, le contrat est sacré, la parole est sacrée, et il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de progression dans la vie civile, économique et sociale sans respect de la parole contractuelle.
Alors, 36 lois sont votées, 2281 textes, articles, je ne me trompe pas.
Exactement.
Et Malville, qui est un de ses collègues, veut introduire comme dernier article un article en fait pour abroger les lois antérieures. Portalis est un peu réticent.
Oui, alors vous l'avez relevé, il considère que ce n'est pas fondé que de légiférer sur des lois qui ont été unanimement votées, régulièrement votées. Donc il en jette, il répugne à cela. Il l'explique d'une manière simple, mais et pas très scientifique d'ailleurs, mais d'une manière simple.
Mais c'est toujours cet esprit de continuité?
Cet esprit de continuité, moi je le crois aussi.
Alors, le 26 Ventose, en 12-13 mars 1804, il présente le Code civil. Il le considère comme l'accomplissement du vœu des citoyens, donc c'est cet aspect révolutionnaire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il reste, comme vous le disiez tout à l'heure, très humble dans sa démarche. Il ne se considère pas comme créateur, mais comme disciple.
Moi, je trouve ça très touchant, vous voyez, et c'est ça qui m'a vraiment, qui a vraiment fait que je me suis attaché à ce personnage pour lequel j'ai fini par avoir beaucoup d'affection. C'est qu'il reste, modeste. Il a tous les honneurs, il est grand aigle, il reçoit toutes les charges de l'Empire, et il reste un homme modeste, et c'est ce qui fait certainement sa grandeur. Mmh. Je le pense ainsi.
Reste un aspect, en tous les cas. Bon, il y a bien d'autres aspects dans la vie de Portalis, mais je voudrais évoquer la question du concordat. C'est ce que nous verrons, Jean-Luc Chartier, dans un instant.
Canal Académie. Écoutez Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean-Luc Chartier, avocat, historien et auteur du livre Portalis, paru chez Fayard. Portalis, le père du Code civil. Alors, un autre grand aspect de la vie de Portalis est sa participation à, non pas l'élaboration du Concordat, mais son application. Alors, dans la préface de votre livre, Jean Tullard, qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, considère que chez Portalis, il y avait une mission contradictoire, parce que d'un côté, il devait laïciser la société par le Code civil, et de l'autre, sa charge a été aussi de re-christianiser cette même société par le Concordat. Vous pensez, vous, qu'il y a une mission contradictoire ?
Finalement, je ne crois pas qu'elle soit contradictoire dans l'esprit de Portalis. Je disais tout à l'heure, Portalis est un chrétien convaincu, mais n'oublions pas qu'un de ses premiers ouvrages, c'est d'avoir disserté sur la validité du mariage des protestants. Et comme c'est un homme de tolérance, comme c'est un homme de sagesse et de modération, il considère qu'il est absolument non naturel, qu'il est simplement invraisemblable que les protestants n'aient pas de statut civil et que leur mariage ne soit pas reconnu puisqu'ils n'ont pas été enregistrés par l'Église et de ce fait ne soient pas vélibres. Ils étaient en dehors totalement de la vie de la société. Donc très très jeune, il est sensible à cette injustice et on verra que la notion d'injustice pour lui est déterminante jusqu'au bout. Et dans cette démarche, en dehors du fait qu'il considère que la foi, la morale chrétienne sont les bases les plus solides de la nature humaine et de la société, il va travailler et réussir auprès du premier consul à éliminer cette conséquence dramatique de la Révolution qui a fait que les gens ne pouvaient plus être baptisés, ne pouvaient plus être mariés, ne pouvaient plus être enterrés comme ils le souhaitaient, c'est-à-dire à l'ombre du clocher de leur village. Alors aussi, Portalis a été fasciné par l'idée de Bonaparte qui disait, bon, ça sera impossible de faire en sorte que les gens excluent de leur nature leur sentiment d'appartenir à une église. Et il va travailler à faire en sorte que cela disparaisse et pour que chacun puisse exercer librement son culte. Ça va, il va le faire avec les protestants, mais il va le faire avec les juifs aussi. Et il va être le grand homme du Sanhédrin. Et il va faire en sorte de donner un statut aussi, ce qui n'avait jamais existé auparavant, aux Juifs comme ministre des cultes. Et il va travailler à cela et réussir à une pacification religieuse pour laquelle Bonaparte l'avait chargé de... que Bonaparte avait chargé de réaliser.
Alors ce sont les fameux articles organiques, et là encore il y a une continuité, c'est le maître mot de notre émission, il y a une continuité puisque vous dites qu'il reprend beaucoup de textes dédits de la monarchie.
Oui, il y a une continuité, mais la monarchie sur ce plan-là était assez libérale et mais aussi extrêmement distante de Rome. Tout le problème en réalité, ça va être le conflit, la rivalité entre Rome et le gouvernement civil de la France, les rois les premiers, et Louis XIV en est le bon exemple, voulaient être libres dans son royaume, dans leur royaume, et ne pas subir les dictats du pape. Portalis est un gallicanique convaincu, est un gallican convaincu. Les doctrines gallicanes sont les siennes et il va les reprendre pour faire en sorte que le pape n'ait plus la possibilité d'intervenir dans les affaires de l'État en nommant les évêques qu'il voulait et en bénéficiant des revenus des abbayes et des charges.
Mais cela ne contredit pas l'esprit même du concordat qui, lui, serait davantage ultramontain ?
Moi, je ne le crois pas, parce pour la bonne raison, c'est qu'on est arrivé à un équilibre. Et c'est ça aussi, ça a été le génie de la négociation de Portalis, qui est intervenu à chaque fois avec le fameux cardinal Consalvi et ensuite Caprara. Il est arrivé à un consensus qui a finalement été adopté. Bon, c'est un équilibre qui était très fragile, hein, mais on arrive dans un problème qui était très épineux, puisqu'il y avait le problème du clergé, le clergé qui avait une importance certaine, puis il y avait ceux qui s'étaient ralliés à la République, et puis ceux qui l'avaient rejeté, qui étaient les royalistes, dont la plupart d'ailleurs avaient été obligés d'émigrer. Eh bien, on est arrivé à... grâce à l'impulsion de Bonaparte et l'entremise de Portalis, à faire en sorte que les conventionnels soient admis à part égale à peu près sur le territoire national.
Alors nous parlions un peu de l'aspect visionnaire du Code civil. Il y a dans l'application du concordat un aspect visionnaire que vous soulignez, c'est le pouvoir des évêques. Mais là, en revanche, vous dites que Portalis et Bonaparte ne s'en rendaient pas trop compte.
Alors, peut-être qu'ils ne s'en rendaient pas compte, mais ils avaient quand même une certaine vision des choses. Et quand Portalis va être ministre des cultes, il va les appréhender encore d'une manière beaucoup plus proche. Il y a des dossiers et on sait très bien qui est qui et qui fait quoi. Les évêques qui ont des attitudes insensées et ceux qui sont des évêques raisonnables et des bons pasteurs. Et très vite, on va savoir qu'il faut garder, qu'il faut rejeter. Et le ministre qu'est Portalis va trancher très rapidement avec le soutien de l'empereur.
Entre les deux tâches, celle du code civil et celle de la réconciliation religieuse, quelle était la plus dure pour lui ?
Je crois qu'il a brillé, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais il a brillé plus dans la difficulté de l'établissement du concordat que dans le code civil.
Existe-t-il un lien entre la morale, nous parlions tout à l'heure de philosophie, entre la morale, la philosophie et le droit pour lui ?
Je crois qu'il y a, en effet, tout est lié, et la politique, la morale et le droit sont une même chose.
Eh bien, c'est sur ces mots, Jean-Luc Chartier, que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes avocat, historien, vous venez de recevoir un prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Et pour votre livre, Portalis, père du Code civil, paru chez Fayard. Merci à vous. Merci
à vous.
Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine.